Chaque semaine, votre émission Mayenne vous est proposée dans le cadre des échanges de production radiophonique entre radios associatives.
Hérité du Conseil national de la résistance, l'État social, qui est le nôtre, a été mis en place en 1945 et s'est organisé autour de quatre piliers. Un droit du travail protecteur pour les salariés, une sécurité sociale couvrant tous les risques, maladie, famille, vieillesse et accident du travail, une intervention publique dans l'activité économique et un réseau de services publics maillant tout le territoire.
Pour un monde qui change, écoutez l'émission Mayenne avec Moussa Alem.
Or, à en croire entre autres la dernière intervention de Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui s'attaque au tabou du licenciement des fonctionnaires, la casse des services publics participe puissamment à la destruction du lien social en niant le principe de bien commun et en faisant disparaître le principe de l'égalité d'accès pour les citoyens. Et à son tour, cette destruction du lien social engendre des replis communautaires et fait le lit du populisme d'extrême droite.
Non.
Si.
Oh ! Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays ?
Je m'en fous.
Faire France ensemble, c'est dans Mayenne, avec Moussa Alem.
Mais alors, que faire ? C'est ce que nous allons évoquer dans votre émission, dans laquelle, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue en proposant des solutions pour réhabiliter les services publics, une nécessité absolue afin de préserver et rétablir ce qui fait société et retisser du lien social. Et à cet effet, nous allons profiter de l'expertise et de l'impulsion de François Stolfi, notre invité du SNAS-CGT, le syndicat national des affaires sanitaires et sociales, avec lequel nous allons converser sur la situation de notre pays et sur les voies de son renouveau.
Au plus proche de vous, avec Moussa Alem, sur votre radio.
François Stolfi, bienvenue à l'antenne. Nous allons parler des jours heureux. Ça va nous faire un peu de bien en ce moment. Vous êtes dans ce collectif qui reprend le titre du programme du Conseil national de la résistance, qui a été écrit pendant la clandestinité, mais qui pour vous est un programme qui inspire toujours un projet de société émancipateur. Donc les jours heureux, c'est un collectif dans lequel on retrouve la CGT, le FSU, Solidaire, l'UNEF et ATTAC. Et nous allons ensemble parler des services publics, puisque c'est l'objet du dernier numéro, le numéro 7 de mars 2024, des jours heureux. Alors effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, puisque aujourd'hui, quand on regarde les services publics, on entend dire qu'il y a des fonctionnaires en trop, beaucoup de gens se posent des questions sur la fonction hospitalière, la fonction publique d'État, et puis aussi la territoriale, comme l'on dit. Alors, vous dites que c'est d'abord un principe qui a été énoncé dès la Libération.
C'était même le principe de la libération, oui. Nous sommes dans un moment clé de l'histoire de France qui s'articule quand même dans la logique de l'histoire précédente qui a été marquée par 1936, c'est-à-dire face à la montée des périls, on disait ça à l'époque. Hein. On voyait bien Mussolini depuis 1922 est au pouvoir, Hitler 33, la guerre d'Espagne. La France se situe dans sa logique historique d'égalité républicaine comme le rempart en quelque sorte de la démocratie, de la forme démocratique de relations collectives.
Vous faites même remonter le mot égalité au siècle des Lumières. Vous dites que c'est le seul pays au monde qui parle d'égalité dans sa devise.
Oui, c'est le seul pays au monde qui affirme sur tous ses bâtiments publics liberté, égalité, fraternité. Mais l'égalité est le mot nouveau dans l'histoire. La liberté, ça a toujours été une revendication. La fraternité, c'est un peu moral. Mais ce qui est la nouveauté, c'est que mûri au fil du temps et l'échange entre les aristocrates en rupture du XVIIe puis du XVIIIe siècle amène tout naturellement à l'émergence, mais c'est seulement en France, de la notion d'égalité. Et la notion d'égalité, c'est quand même pas rien. C'est la modernité depuis le début de l'humanité. Depuis les cavernes, c'est la loi du plus fort.
Soyons concrets, puisque on vient de se prendre, si je peux dire, la loi immigration. L'égalité, c'est pour tout le monde ou c'est pour certains ?
L'égalité est pour tout le monde, et non seulement elle est pour tout le monde, mais elle était faite en particulier pour les étrangers, pour les gens qui étaient en rupture et qui étaient poursuivis dans leur pays. C'est-à-dire que s'ils venaient en France, c'est qu'ils voulaient partager le projet. Raison pour laquelle on a inventé le droit du sol et pas le droit du sang. On a été quasiment, là aussi, les plus clairs sur cette question. On n'est pas dans une logique tribale. T'es de mon clan, t'as droit, t'es pas de mon clan, t'as pas droit. On est dans une logique de projet collectif. Je partage votre projet, je viens chez vous et dès lors, j'ai le droit d'être citoyen du pays. C'est extraordinaire. C'est une rupture historique, encore un coup, avec les cavernes.
et citoyen de la cité, puisque si je retourne un peu plus en arrière dans le temps, on a la Commune de Paris, par exemple, où les étrangers pouvaient participer, être élus.
Absolument, la Commune de Paris était très en avance sur son temps, elle l'a payé fort cher d'ailleurs. N'empêche que dans la quinzaine d'années, grosso modo, qui ont suivi la Commune, l'essentiel de ces mesures, qui n'ont pas eu le temps d'être appliquées, elle a duré 3 mois, ont été appliquées. Eh ben oui. Rappelons-nous de ça, la Commune de Paris, comme tous les grands événements français qui viennent tous les 30-40 ans, entre-temps c'est la droite et on régresse et on balbutie, on fait bêtise sur bêtise, et régulièrement, c'est la logique française, ça, de la rupture, on cherche pas le consensus, on trouve l'adversaire, on l'analyse, et puis, dès qu'on peut, et ça peut attendre 30 ans des fois, on lui tombe dessus et on regagne du terrain.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Ah, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world.
François Astolfi, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'un des membres du collectif Rennais Les Jours Heureux. Le CNR, donc, le Conseil National de la Résistance et non pas de la Refondation. C'est le Code du Travail, c'est la Sécurité Sociale, ce sont les services publics et l'intervention publique dans l'activité économique. On peut parler encore, puisque c'était ça au fond le sujet, d'État social.
C'est l'enjeu. Pendant la guerre, donc au cours de l'écriture du programme du Conseil national de la Résistance, que les anciens dénomment eux-mêmes les jours heureux, on réfléchit à la cause de la guerre. Et on ne dit pas « Oh, c'est les diplomates qui n'ont pas été bons, oh, les militaires ont été nuls ». Non, eux font l'analyse de « S'il y a eu la guerre, c'est la conséquence directe de la crise de 1929 ». Qui va emmener la crise économique. Les Nord-Américains ont prêté aux Allemands, sauf que, en 1929, ils s'effondrent. Ils rapatrient leurs sous vite fait chez eux, ce qui fait effondrer l'Allemagne. Et l'apparition et la résurgence d'Hitler est un projet des Nord-Américains, finalement, et des capitalistes français qui préfèrent Hitler au Front populaire.
Quand on regarde la situation aujourd'hui, ça sent un peu tout ça aujourd'hui, où sommes-nous dans les années 30 dans notre pays ?
Bah, de toute façon, la mécanique économico-sociale est toujours la même à l'œuvre, celle du capitalisme. Capitalisme veut dire que ceux qui profitent veulent obliger qu'ils sont, de par la concurrence entre eux, de toujours accumuler plus. Alors, tôt ou tard, on retrouve les mêmes problèmes. Et nous sommes aujourd'hui dans une logique où les moyens monétaires des pays capitalistes sont considérablement plus importants que la richesse réelle. Nous marchons dans le vide, comme en 1929, où le président Hoover n'a pas voulu intervenir en disant non, le marché va réguler, on a vu ce qu'il en est advenu, et c'est ça la nouveauté. En 45, on dit l'État doit se mêler des relations économiques et sociales pour éviter que le marché tout seul, qui ne peut pas se réguler. Peut-on apprivoiser une bête sauvage ? C'est ridicule, personne n'y pense. Eux l'ont fait. Ils n'ont pas rêvé que le marché allait se réguler par lui-même, ils ont posé des règles. Or, si c'était possible en 1945, parce qu'il y avait une conscience collective, toute naturelle, vu la guerre et le désastre, les camps de prisonniers aussi bien, les maquis, enfin, tout ce monde-là avait eu des relations entre eux qui les amenaient à comprendre ce que c'était que la fraternité et le projet social. Aujourd'hui, on en est moins là, parce que le capital a repris de la place dans les esprits, de par la concentration capitaliste des médias, qui sont très importantes et qui portent les idées dominantes, qui sont bien entendu les idées de la classe dominante. Donc, on se retrouve devant cette contradiction qui, effectivement, semble avoir déjà été vécu.
Belle et Rebelle, c'est votre émission Bayenne avec Moussa Alem.
Votre magazine préféré dans lequel j'ai plaisir à recevoir pour vous François Astolfi, dirigeant syndical et membre du collectif Rennais Les Jours Heureux, composé de la CGT, du FSU, Solidaire, l'UNEF, Attaque, les Amis du Monde Diplomatique et Action, Culture et Entreprise. François Astolfi qui reprend la citation de Jean Jaurès, « Le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Et il nous explique que surtout, il faut sortir les services publics du secteur marchand.
C'est le principe. À partir du moment où on considère que le capitalisme brut nous mène au désastre, ce qui était la pensée des anciens en 1945, il fallait faire en sorte que les règles de fonctionnement de ce qui est vital, qui est nécessaire à la vie de l'humain, soit pas sur le marché. C'est bien logique.
C'est quoi le message au fond ? C'est qu'une fois que tout sera privé, on sera privé de tout.
C'est un joli mot. Absolument. Privé de tout ? Non. Ceux qui ont les moyens paieront. Quant aux autres, selon la logique américaine imparable, puisqu'il y a des riches et des pauvres. Les pauvres, ils auraient pu être riches. Qu'est-ce qu'ils viennent nous demander? Ils n'avaient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, ils n'avaient qu'à réussir.
Même sur ce qu'on produit, par exemple, prenons le cas de EDF, l'électricité de France. Ça a été créé en 1945. Aujourd'hui, on sait qu'on produit de l'électricité et que le marché européen nous oblige à vendre l'électricité basée sur le prix du gaz. Et finalement, d'autres se font de l'argent avec ce qu'ils nous achètent à bas prix et le revendent 500 fois plus.
C'est une absurdité parfaitement assumée par l'Union européenne. Là, on est sur un sujet clé. C'est celui de l'idée qu'on se fait de la société. Pour un système capitaliste, il est évident que la logique de la concurrence est une bonne logique. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, rappelez-vous de son traité constitutionnel qui a été soumis à notre référendum et que nous avons refusé à 55%, disait « L'Union européenne est basée sur la concurrence libre et non faussée ». Ça veut dire la fin des services publics qui sont basés sur les subventions d'État, qui sont basées sur le monopole, précisément pour être dans le temps long. Le capital ne sait pas ce que c'est que le temps long, puisque c'est le temps de l'investissement qui ne cherche pas nécessairement la rentabilité, mais le service rendu pour que la société avance sur la base de l'égalité. Alors dès lors, il doit, selon sa propre logique, empêcher la logique du service public, car c'est le privé, lui, capital, tout un espace sur lequel il peut faire du pognon.
Ce sont les combats que nous livrons qui nous définissent.
Autre service, François Astolfi, autre service mis à mal, l'école publique. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, c'est l'enseignement et la recherche universitaire qui sont sacrifiés au profit des filières d'excellence, des classes préparatoires, des grandes écoles, bref, pour celles et ceux qui ont de l'argent.
C'est le vieux rêve de la bourgeoisie, la question de l'excellence à laquelle quasiment personne ne peut résister, d'autant qu'elle est assortie de l'idée de promotion sociale. Mais ça concerne qui? La bourgeoisie. Bien sûr qu'on va trouver tel ou tel fils d'ouvrier, disons, de l'ordre de 1%. Donc la bourgeoisie a toujours, et c'est logique, cette idée de s'assurer la pérennisation de sa domination. Donc il faut renouveler le capital culturel, comme l'expliquait très bien Bourdieu, en transmettant ça dans la famille, mais aussi par l'organisation de la transmission plus objective, celle de l'école. Donc l'idée de l'école telle qu'elle était faite, et encore, elle n'allait pas très si bien que ça, mais dans l'intention, là encore, de la libération, c'était calée sur l'égalité républicaine. Et donc à ce moment-là, il fallait régler la question du concordat, par exemple, en finir avec ce truc-là, c'était à deux doigts, puis ça s'est pas fait. Mais ces forces-là réactionnaires, c'est légitime, il y a des réactionnaires et puis des révolutionnaires, c'est la vie, c'est comme ça. Et on s'entendra jamais, et il n'est pas question de trouver un consensus là-dessus, il faut pas rêver. Il faut se dire, à nous établir un rapport de force qui va imposer quoi? Eh bien, tout simplement la démocratie, c'est-à-dire la loi du plus grand nombre. Mais comme entre-temps, les médias qui appartiennent aux dominants, raison pour laquelle les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, on s'en sort pas, parce qu'ils nous racontent une histoire, la nôtre, qui n'est pas la nôtre, qui est la façon dont eux nous voient. Alors à nous de nous réveiller et de ne pas répéter ce qu'ils disent de nous.
Donc l'abaya, l'uniforme, tout ça, c'est pas le sujet.
Mais non, le seul sujet, c'est le partage de la richesse. Et là, on touche le dur. On peut s'engueuler, c'est des discussions tout à fait passionnantes, moi je veux bien, sur l'abaya et les hommes-femmes, oui, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'une minorité, et elle n'est pas nombreuse, accumule des sommes mais absolument faramineuses, et on nous fait discuter sur les fraudeurs à la carte vitale.
Et last but not least, François Astolfi. Et moi, j'ai été scotché à la lecture du numéro 7 des Jours Heureux. Je vous trouve un peu dur quand même. La SNCF, coquille vide du service public ferroviaire. Je dis que vous êtes dur parce qu'ils ont été explosés en je ne sais pas combien de sociétés. Et alors que on parle de mobilité en ce moment, on parle d'égalité entre les territoires, entre Paris et la province. Il y a de moins en moins de possibilités pour celles et ceux qui subissent les déserts médicaux de se déplacer. Et vous, vous dites, on a tué la SNCF et y compris le fret.
Et c'est la raison pour laquelle les territoires vont mal aussi. Ils sont plus reliés. Comment voulez-vous avoir une cohésion, une cohérence nationale à partir du moment où vous décentralisez? C'est déjà une question de fond, hein. On nous dira, ah oui, c'est la démocratie. Mais si on regarde la question de l'aménagement du territoire, ça ne peut être fait que par un projet national. Et donc, casser la SNCF, société nationale, comme elle est faite en sous-ensemble, ça ne peut amener qu'incohérence. Essayons d'aller d'une région à l'autre par les TER. Vous êtes obligé encore plus de passer par Paris qu'avant, et par les TGV. Donc cette espèce de logique de dire on va faire des TGV pour aller vers Paris, et puis les régions s'arrangent entre elles, amène tout simplement une plus grande centralisation. C'est quand même extraordinaire, non ?
François Stolfi, pour conclure, à qui profite le crime? Parce que j'imagine qu'en 2027, ça va être l'un des sujets, où il y aura des sujets qui seront repris, notamment pour la présidentielle. Donc ça profite à qui? À l'extrême droite ou pas que?
Ça profite à tous les gens qui ont intérêt à ce que rien ne change, parce que c'est eux qui en profitent le plus. Des ultra-riches qui s'appuient sur les médias qu'ils possèdent, alors que ça leur rapporte pas tant que ça, mais par contre, ça leur permet de tenir les gens dans une histoire qui n'est pas la leur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bolloré, tout ça, voilà, ça donne ça. Et donc le capital qui prend des allures éventuellement sociales, et puis quand ça tient plus parce que les masques tombent au bout d'un moment, l'exaspération des gens, entretenue par des médias qui leur racontent l'histoire qui n'est donc pas celle qui convient de comprendre de notre point de vue, finissent par se jeter dans les bras, mais comme vous le disiez tout à l'heure, tiens, on a déjà vécu ça. Oui, on a déjà vécu ça. Le joker du capital, quand il est en difficulté face aux masses sociales qui commencent à comprendre le jeu, c'est de nous jeter entre les pattes une espèce de logique de pensée assez racornie, c'est pas ouvert, et qui referme les gens sur eux-mêmes par la peur de l'autre, parce qu'on le désigne comme la personne envahissante, alors là, c'est pour les émigrés, mais aussi les pauvres, tous ces assistés, là, ça va bien. Et ça fait son chemin, de telle sorte qu'on aille voter, peut-être, peut-être pas, pour quelqu'un, pour un courant de pensée qui est plus à droite encore que la droite. Mais si on dit que la vraie question, c'est le partage de la richesse, il convient d'ouvrir nos yeux. Ce parti-là ne fera pas autre chose que la droite.
Mais il faut bien payer la dette, François Stolfi.
Il n'y a pas de dette.
Elle est énorme, cette dette.
Non, il n'y a pas de dette dans le sens d'une petite gestion familiale sur cahier à carreaux de ce que l'on reçoit et de ce qu'on dépense. La dette publique de l'État n'existe pas. Elle n'est jamais remboursée. La dette roule, comme on dit, c'est-à-dire que l'État va emprunter de quoi payer les intérêts de la dette. Quand il a remboursé les intérêts de la dette, il réemprunte pour continuer. Et ça roule. Aucun État ne rembourse jamais sa dette, premièrement. Deuxièmement, toutes les exonérations fiscales qui sont faites, par ailleurs, au fil du temps, au profit des très riches, contribuent à l'existence de la dette elle-même, ça c'est sûr. Et ces riches-là, qui ont été exonérés d'impôts, prêtent à l'État qui se trouve dans le besoin d'emprunter pour payer les intérêts de la dette. Et qui leur prête? Eh bien, ceux qui n'ont pas payé les impôts, puisqu'ils ont de nouveau de l'argent disponible pour pouvoir acheter de la dette. Pas tout à fait. Enfin, on dit de la dette, mais c'est les intérêts de la dette.
Avec nos impôts?
Avec nos impôts, bien sûr. Nous, nous payons. Eux sont exonérés, ont des masses considérables. Et avec cet argent-là, eh bien, c'est eux qui... Ah, vous avez besoin... L'État a besoin d'argent? Oh, et ils nous font la morale. Vous dépensez trop. Comment ça, on dépense trop? Qui sont les plus aidés là-dedans? C'est forcément les ultra-riches, puisqu'ils payent pas leurs impôts.
Du coup, comme disent les Jones, on écrit quoi sur l'épitaphe des services publics?
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il faut être positif. Ils sont pas morts. On serait tenté de dire les défunts services publics. Non, non. Notre projet reste celui de la solidarité, de la mutualisation de nos intelligences et de nos moyens, et reste celui du projet d'égalité. Nous ne laisserons personne à la porte de la cité.
Je cotise ou je donne en fonction de mes moyens et je reçois en fonction de mes besoins, c'est ça?
C'est la sécurité sociale. Voilà un projet. Et c'est l'esprit social, socialiste, communiste, comme on voudra, déjà là, depuis 45, c'est ça l'idée que nous avons du progrès social. C'est pas chacun pour soi. Ça existe depuis les cavernes. 1789, nous disons égalité. 1945, nous la mettons en pratique. Et c'est la sécurité sociale.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
François Stolfi, mesdames et messieurs, dirigeant syndical et membre du collectif Rennais, les Jours Heureux, avec ce numéro 7 gratuit, dont la reproduction est encouragée et que vous pourrez vous procurer en m'envoyant un message à contact@lesjoursheureuxrennes.fr, tout collé. contact@lesjoursheureuxrennes.fr. Et si vous voulez que l'équipe du collectif se déplace, pourquoi pas, pour mener avec vous un débat autour de la projection de deux films, La Sociale et Les Jours Heureux, eh bien n'hésitez pas, c'est également la même adresse.
Bayenne sur les réseaux pour rester en contact avec Moussa Alem.
Et Les Jours Heureux, c'est aussi sur votre radio, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, même fréquence et même heure. D'ici là, portez-vous bien, promettez-nous d'être heureux, dites « je t'aime » à celles et ceux que vous aimez, et que la vie vous soit douce.